Non mais qu'est-ce qui se passe ici? Ça fait 3 fois que je fais le tour du quartier, j'avais même pas reconnu la maison.
Bah écoute, c'est ça. J'ai juste voulu te faire plaisir, j'ai mis plein de guirlandes, c'est vrai. Mais c'est ça la magie de Noël. En tout cas, t'es arrivé à temps pour la JT du local.
J'ai plus longuement regardé par la fenêtre qu'au tableau et les poils de mes bras se dressent toujours autant quand j'entends une sonnerie d'école. Mais l'école, si je vous en parle, c'est que c'est la première institution qui fait société dans notre vie, après la famille peut-être, vous me direz. Alors si celle-ci se fragilise, s'abîme, ça vaut peut-être le coup de tendre l'oreille, de regarder d'assez près ce qu'il s'y passe pour comprendre de quels enjeux on parle, se faire son avis et agir. Aujourd'hui, SNUDIFO 53 et la Fédération Force Ouvrière de l'Éducation Nationale lancent un signal d'alerte concernant l'acte 2 de l'école inclusive. À partir d'alertes du terrain, il nous explique l'appel à la grève lancé pour le 25 janvier. Ensuite, on ouvrira quand même nos trousses et puis on se sentira bien au Théâtre des Ursulines, au Carré de Château-Gontier, puisque bientôt se produit un spectacle avec l'autrice et illustratrice d'albums jeunesse, Ilia Green. Des rencontres, des ateliers sont également organisés autour du spectacle Baladine. Christine Houdard et Anne Ferreira nous le raconteront en seconde partie d'émission. Et cette semaine ne commencerait pas si bien si ce n'était pas en compagnie de nos chroniqueurs Lénie et Nour de l'avant-scène qui nous feront une belle leçon de cinéma. C'est toutes les 2 semaines, le lundi, dans l'AJT du local. Mais alors je m'emballe un peu. Dans ce début d'émission, que j'en oublie la base. Chers auditeurices, vous venez de rejoindre l'AJT du local, bienvenue. Et avec moi, évidemment, c'est Lucie. On est ensemble pour commencer cette nouvelle semaine. Bonjour Lucie, comment tu vas ?
Bonjour, ça va très bien et toi ?
Super. Alors dis-nous tout, on est peut-être passé à côté de certaines nouvelles ce week-end.
Eh bien, tout d'abord, pour les nouvelles que j'ai à vous partager, vous avez probablement entendu parler de l'influenza aviaire hautement pathogène, ou IAHP. Enfin bon, la grippe aviaire, pour les païens comme moi. Bon, elle fait régulièrement parler d'elle, cette grippe aviaire, et cette année, elle frappe encore, malheureusement. Et donc, la semaine dernière, le 28 novembre, un arrêté a été publié pour passer le niveau de risque de négligeable à modéré sur l'ensemble de l'Hexagone. Les mesures de prévention et de biosécurité se voient donc renforcées pour les élevages et aussi pour les chasseurs. Comme d'habitude pour ce genre d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la préfecture de la Mayenne et tapez dans la barre de recherche IAHP. Vous y trouverez dans les communiqués de presse tous les détails et entre autres la carte des zones concernées ici en Mayenne. Petit point sport rapide maintenant. Lors du tour élite de la Ligue des Champions en futsal, l'Étoile Lavalloise a malheureusement perdu ses 2 premiers matchs, un contre les Lettons de Riga avec un 5-4 et l'autre contre un écrasant 7-0 pour Barcelone. Mais notre étoile s'est tout de même rattrapée avec une victoire contre Eboli avec un 4-0 pour nous. Et dans un tout autre style maintenant, pour ceux qui sont curieux de découvrir l'escalade, le club Graal à Laval organise ce dimanche 10 décembre une journée porte ouverte de 10h à 16h au profit du Téléthon.
À propos de sport, Lucie, nous on n'est peut-être pas les plus rigoureuses du département sur ce sujet, mais on est quand même sur un territoire qui s'intéresse beaucoup au sport et qui laisse une belle place au journalisme sportif.
Tout à fait Margot, et c'est dans longtemps, mais le 31 janvier 2024 et le 1er février 2024, Laval accueillera le premier festival du journalisme sportif, en France. De quoi rattraper nos petits manquements, Margot.
Nous, on est au point sur la culture, par contre. Tu aurais des choses à nous partager pour finir ?
Bien sûr, tout d'abord, côté musique, la commune de Cossé-le-Vivien accueille vendredi 15 décembre, dans sa salle FCC, le groupe Tant2M, un groupe phare de la scène rock française. Et puis, à Château-Gontier, dans le cadre de la semaine Laïcité et Valeurs de la République, le Carré et le Lycée des métiers de l'agriculture, ou LMA, se sont associés pour accueillir l'artiste Petite Poissonne pendant toute cette semaine en résidence au sein de l'établissement. Des phrases et des dessins en sticker sur le thème de la laïcité seront réalisés. Et un vernissage se tiendra vendredi 8 décembre à 11h au lycée des métiers de l'agriculture, route de Sablé, en présence de l'artiste, des élèves, des enseignants et du Carré. Et pour finir, pour ceux qui ont plutôt envie d'aller dans le nord Mayenne, sachez que le musée du château de Mayenne propose depuis ce week-end et jusqu'au 31 décembre une animation familiale qui s'appelle « Il y a comme un os ». Il s'agit de faire une enquête anthropologique pour aider l'archéologue Annabelle Truel à comprendre qui était le squelette qu'elle a découvert dans le parc du château. Pour les informations pratiques, c'est fermé les lundis et sinon c'est tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 17h pour une animation qui dure environ une heure. C'est 4€ en plein tarif, 3€ en tarif réduit et gratuit pour les moins de 18 ans et les demandeurs d'emploi.
Grève sur le chemin de l'école. En mai dernier, le président Emmanuel Macron annonçait l'acte 2 de l'école inclusive. 12 mesures arrêtées devraient être mises en place au cours de l'année scolaire 2023-2024. Selon le gouvernement, l'école inclusive vise à assurer une scolarisation de qualité pour tous les élèves, de la maternelle au lycée, à la prise en compte de leur singularité et de leurs besoins éducatifs particuliers. Mais aujourd'hui, les syndicats alertent et lancent un appel à la grève le 25 janvier 2024. Steve Godin, co-secrétaire départemental du SNUDIFO 53, et Fabien Aurin, secrétaire départemental de la Fédération Force Ouvrière des syndicats de l'éducation nationale, nous expliquent le constat qu'ils tirent sur le terrain de la mise en place de l'école inclusive. La sonnette d'alarme semble être aujourd'hui pour tout le pays.
On est aujourd'hui dans une situation qu'on va qualifier de catastrophique, hein, on pèse nos mots. Si parfois, effectivement, il y a des réussites, hein, il ne s'agit pas de poser le débat pour ou contre l'inclusion. Mais l'inclusion scolaire, aujourd'hui, c'est ne pas prendre en compte les besoins réels de nos élèves en termes de soins. Savoir qu'il y a beaucoup trop d'élèves dans le département de la Mayenne, mais aussi partout en France, qui ont des besoins de soins, qui devraient être scolarisés dans des structures sociales ou médico-sociales et qui ne le sont pas. Et donc par défaut sont scolarisés en milieu ordinaire, voire totalement déscolarisés. Et ça génère énormément de souffrance, tant pour ces élèves que pour les personnels, les enseignants, les AESH, mais aussi les personnels administratifs, mais aussi les parents et aussi les autres élèves. Déjà, il faut savoir que c'est un véritable parcours du combattant pour les familles, pour les parents, hein, pour faire reconnaître et ensuite pour faire appliquer l'orientation de la maison départementale de l'autonomie. Mais ensuite, concrètement, quand on force cette inclusion, on a des exemples trop nombreux, malheureusement, d'enfants qui sont là, scolarisés par défaut en milieu ordinaire, qu'on va isoler parce que ils sont en souffrance parfois dans les classes, parce que on ne prend pas en compte leurs besoins en termes de soins, parce que parfois cette situation va générer des crises de violence par la souffrance que vivent ces enfants-là, et qui ces crises peuvent mettre à mal évidemment l'enfant concerné en premier lieu, mais aussi les personnels de l'éducation nationale. On a beaucoup trop de situations comme celle-ci où nos collègues craquent, où nos collègues souffrent. Ce sont des jets de chaises, ce sont parfois des insultes, ce sont parfois des coups, des excès de violence qui sont liés à la situation de souffrance dans laquelle se trouvent ces enfants.
Et donc vous craignez la suppression des structures telles que les IME, les ITEP ?
Ah mais rien n'est caché, tout est prévu. L'article 53 justement de l'acte 2 de l'école inclusive prévoit dans son carnet de route la suppression des établissements spécialisés. Du reste, c'est une pression aussi de l'ONU qui voudrait que tout soit fermé. En l'occurrence, moi je voudrais aussi revenir sur l'opposition des mots entre l'inclusif et l'inclusion. On est tous pour que la société et donc son école soit inclusive. En l'occurrence, ce qui se passe actuellement, c'est une inclusion qui est, dans certains cas, malheureusement de plus en plus nombreux, une inclusion qui est forcée. Qui est forcée pourquoi ? Parce que l'école n'est pas encore prête à accueillir tous ces jeunes qui, on le répète, ont parfois besoin de soins, ont besoin d'un accompagnement éducatif que l'État français n'est pas en mesure de leur dispenser.
Est-ce que vous avez des chiffres concernant notre département ?
On a des chiffres alors qui varient, puisque ce sont des flux d'élèves, malheureusement, c'est malheureux de parler comme ça. On a des élèves qui sont notifiés par la MDA, la maison départementale de l'autonomie, qui sont notifiés pour être accueillis dans des structures du médico-social car ils ont des besoins thérapeutiques, ils ont des besoins éducatifs. Mais ces élèves n'ont pas de place. En Mayenne, on estime à une grosse centaine d'enfants qui sont en attente d'une place dans un soit un IME, donc un institut médico-éducatif, soit un ITEP qui concerne les élèves avec des problèmes de comportement assez graves. Ces listes d'attente donnent lieu à des temps qui dépassent largement les 2 ans, qui atteignent même les 3 ans. Donc l'État ne pouvant pas accueillir ces élèves et ces jeunes dans les structures dont ils ont besoin, ces élèves se retrouvent dans les classes toutes du milieu ordinaire, mais sans aucun moyen, ou en tout cas avec des moyens qui sont assez pauvres concernant leur accompagnement.
Et alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour ces jeunes qui ne bénéficient pas de l'accompagnement nécessaire ?
À partir du moment où ces jeunes ont une notification, je vous rappelle que les notifications, c'est quand même des notifications qui sont émises par des professionnels, par des spécialistes. À partir du moment où un accompagnement a été notifié à un jeune et que cet accompagnement ne se met pas en place, forcément, c'est inéluctable. Les troubles ne peuvent pas, à minimum, se résorber. Et bien entendu, dans la plupart du temps, finissent par empirer. Et on arrive forcément à des situations où le jeune a pendant 3, 4, 5 ou même plusieurs années, n'a pas eu l'accompagnement nécessaire. Et donc, on arrive à des situations qui peuvent effectivement être catastrophiques pour ces jeunes.
Et alors, vous nous parliez d'enfants qui ne pouvaient pas être pris en charge par l'école ordinaire ni par une institution spécialisée. Qu'est-ce qu'il se passe pour ces familles-là ?
Malheureusement, comme le système, notamment éducation nationale, faillit dans l'accompagnement puisqu'on ne se donne pas les moyens nécessaires, on aboutit à des situations extrêmes qui amènent parfois l'administration à déscolariser certains élèves, ce qui d'ailleurs nous montre que quand on essaye d'organiser une éducation inclusive sans s'en donner les moyens, on aboutit à un paradoxe qui est justement l'exclusion de certains jeunes. Et effectivement, quand ces jeunes ne peuvent plus être acceptés à l'école, car elle n'est pas en mesure de les accompagner, on se retrouve effectivement dans des situations familiales dramatiques, puisque certains parents, pour pouvoir être avec leur enfant, sont obligés d'arrêter de travailler.
Donc aujourd'hui, vous faites un appel à la grève pour la journée du 25 janvier. Quelles sont les revendications précises de cette journée ?
Alors cet appel à la grève s'organise au niveau national. Les remontées de tous les départements font état des mêmes constats, que l'on soit ici en Mayenne ou qu'on soit dans le Massif central ou dans la région parisienne. Les revendications, elles sont déjà dans un premier temps de stopper l'hémorragie, tout simplement. Il n'y a eu aucune création de place dans les établissements sociaux et médico-sociaux depuis bon nombre d'années. Et bien au contraire, l'acte 2 de l'école inclusive prévoit de les fermer. Nous, on dit stop, on dit non, on a encore besoin de ces établissements. L'école inclusive ne peut pas se faire sans des personnels que l'on appelle des AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Ces personnels sont des personnels malheureusement précaires. Elles ont souvent des temps partiels imposés avec un salaire qui est vraiment dérisoire par rapport à leur mission. Donc une des revendications premières pour nous, et qui serait juste un moindre mal, ça serait déjà qu'on puisse reconnaître leur métier, que l'on puisse avoir des professionnels épanouis et donc permettre un meilleur recrutement des AESH qui manquent cruellement dans nos classes. Un vrai statut et un vrai salaire.
Avant même les revendications que vous portez aujourd'hui, il y avait déjà des classes surchargées qui continuent d'être surchargées. Ce dont vous nous parlez aujourd'hui s'ajoute aux problèmes déjà existants.
Et bien, là encore, c'est un paradoxe de l'État. On voudrait rendre une école inclusive, donc capable d'accueillir tout le monde, mais on a un taux d'encadrement qui augmente avec des classes qui sont de plus en plus surchargées. Donc où est l'inclusif ?
Et alors vous nous avez parlé de la situation des professeurs stagiaires qui envisageraient déjà de quitter la profession.
C'est une situation générale. Bien évidemment que l'inclusion scolaire, ça vient ajouter en tout cas à la dégradation de nos conditions de travail. Et effectivement, aujourd'hui, en Mayenne, on a un quart des professeurs des écoles stagiaires qui ont démissionné ou en tout cas qui envisagent de le faire. Là, c'est les chiffres que nous avons. Conditions dégradées de par l'absence de reconnaissance. Mon camarade parlait des AESH qui n'ont pas de statut, qui sont très précaires. On a parmi les pays de l'OCDE les salaires les plus bas pour ce qui concerne les enseignants. On n'a aucune perspective d'augmentation de salaire à part des mesures de saupoudrage et effectivement des effectifs dans les classes qui sont toujours aussi chargés avec cette gestion de l'inclusion à tout prix, à marche forcée. Donc effectivement, c'est un métier qui devient de plus en plus difficile. Et on voit encore aujourd'hui que les concours ne font pas le plein, si je puis dire. Donc c'est un réel souci après en termes d'égalité des droits, en termes d'égalité d'accès à l'école publique pour tous les enfants, qu'on soit en situation de handicap ou non d'ailleurs. Donc si je reviens sur le sujet de l'inclusion, l'égalité des droits, c'est permettre aussi à chaque enfant, en fonction de ses besoins, d'être accueilli, d'être scolarisé, y compris si ça doit être dans une structure du médico-social pour répondre à ses besoins de soins, pour qu'il puisse ensuite, comme tous les autres enfants, s'émanciper, comme tout le monde peut prétendre à cette émancipation. C'est la République qui doit garantir cela. Et c'est pour ça que nous avons pris cette initiative de faire savoir largement ce qui se passe dans les écoles, d'aller au ministère à Paris le 25 janvier, dans l'unité la plus large, il y aura aussi des personnels soignants, des personnels de la pédopsychiatrie, il y aura des parents d'élèves, et vraiment aller faire entendre nos voix là-dessus pour que ça cesse, pour mettre un coup d'arrêt à cette politique de l'inclusion à tout prix, pour stopper aussi l'acte 2 de l'école inclusive qui a été annoncé par Monsieur Macron au mois de juin et qui prévoit ni plus ni moins la liquidation de ces structures spécialisées, la fusion des AESH avec les AED, les surveillants dans les collèges et lycées, et qui prévoit aussi la mise en place des PAS, des pôles d'appui à la scolarisation, qui vont vraiment aller encore plus loin dans la mutualisation de l'accompagnement des élèves.
On est pour l'éducation inclusive à chaque fois que c'est possible. En revanche, on est aussi très attaché à un enseignement spécialisé à chaque fois que cela s'avère nécessaire.
Restez avec nous sur l'autre radio parce qu'après la pause musicale, on parle de l'univers de l'illustratrice Ilia Green et du spectacle Baladine qui se jouera au Théâtre des Ursulines au carré de Château-Gontier.
De mon côté, je vous propose d'écouter une musique que vous allez peut-être reconnaître sans vraiment la reconnaître. Il s'agit d'une reprise, je n'en dis pas plus. C'est Duke Ellington qui nous a régalé avec Sugar Rum Cherry, une reprise ma foi des plus humoristiques du fameux morceau de Tchaïkovski dans Casse-Noisette, vous avez sans doute reconnu.
Dessine-moi un mouton ou ce que tu veux pourvu que mes yeux d'enfant s'émerveillent devant. L'autrice et illustratrice d'albums pour enfants Ilia Green le fait à merveille. D'ailleurs, elle sera au Carré à Château-Gontier aux côtés de la chanteuse Céline Poggi et du pianiste virtuose Thierry Hélier. À trois, ils vous tiendront la main pour vous emmener en voyage. Un bien particulier d'ailleurs puisqu'il s'agit d'un voyage illustré. Ça sera le 8 décembre, c'est le spectacle Baladine, mais ce n'est pas tout. Christine Houdard, directrice de la communication et programmatrice jeune public au Carré, et Anne Ferreira, responsable de la médiathèque du Pays de Château-Gontier, vous explique les autres temps qui seront construits autour de la présence exceptionnelle de Ilia Green. Des rendez-vous pour les grands et les moins grands. Sortez vos feuilles et vos crayons.
Alors Ilia Green, c'est une auteure illustratrice voilà, qui a un parcours déjà bien rempli. Elle est principalement connue, je pense, du grand public sur la série Bull et Bob, qu'elle illustre depuis... voilà, il y a un certain nombre d'albums qui existent. Et puis elle a aussi des albums voilà, d'univers toujours assez doux, colorés. Elle a vraiment un style très... facile à repérer, en fait, une fois qu'on commence à connaître ses dessins, on les repère assez facilement. Et c'est un univers tout doux, souvent voilà, des enfants, des bébés, très colorés, souvent un lien avec la nuit, la rêverie, assez fantastique, en tout cas dans le côté rêve. Le Carré a eu l'occasion de découvrir le spectacle Baladine. Et tout de suite, voilà, la proposition était hyper intéressante puisque ça mêle musique et dessin en live. Et aussi dans une ambiance de nuit et de soir qui tombe. Voilà, on commence à rentrer chez soi, la nuit arrive, c'est tout doux, on se pelotonne au coin du feu. Et c'est l'occasion de découvrir vraiment un univers musical très varié, musique classique, musique jazz, chansons françaises, pas du tout forcément écrites pour le jeune public, mais voilà, qui crée un univers vraiment très sympathique. C'est presque de la relaxation sonore, c'est très très agréable. Et en plus, on est complètement hypnotisé par le dessin en direct d'Ilia Green. Donc voilà, on a eu un petit coup de cœur pour ce spectacle. Et donc, quand on a décidé de le programmer, tout de suite, on s'est dit que ça serait quand même hyper intéressant de pouvoir profiter de la présence d'Ilia Green pour imaginer d'autres rendez-vous. Et donc, comme on a l'habitude de travailler avec la médiathèque du Pays de Château-Gontier, le lien avec le livre était évident. Donc, on a pris contact avec Anne et son équipe. Et puis, la librairie Emily Ranjou aussi. Et, voilà. Et donc, il y a plusieurs rendez-vous qui se sont construits autour exposition, atelier, rencontre avec l'auteur.
L'exposition, elle sera visible à la médiathèque du 6 au 23 décembre pendant nos horaires d'ouverture. Elle se tiendra en fait dans notre salle d'expo. C'est une exposition grand public en fait, qui s'adresse bien sûr aux enfants qui ont l'habitude de lire en fait les ouvrages d'Ilia Green, mais aussi quand on est adulte, je pense qu'on peut être sensible à l'art en général. Donc pour nous, c'est aussi l'occasion de rappeler justement que l'illustration des albums a aussi une valeur artistique, en fait, que c'est vraiment un travail de création qu'il est important de mettre en valeur. Et c'est pour ça que nous avons fait le choix d'accueillir des planches originales. Donc c'est vraiment une exposition qui s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes, en fait, un peu curieux, comme l'a rappelé Christine. Un temps de rencontre le mercredi 6 décembre à 17h. Et donc, Ilia Green nous fait l'honneur de venir présenter elle-même en fait son travail. Donc, c'est elle qui a conçu en fait, la mise en œuvre. Et elle nous a proposé d'accueillir les enfants à partir de 4 ans pour une visite de l'exposition. Donc voilà, on est un peu curieux de savoir comment ça va se passer parce que c'est pas quelque chose de si fréquent en fait de faire des visites d'expo comme ça en compagnie des illustrateurs. Donc on va voir, donc tout public est bienvenu, prioritairement donc public jeunesse accompagné d'adultes bien entendu. On sera sur une formule relativement courte d'une demi-heure et à l'issue de cette présentation par l'artiste, il y aura un stand en fait de la librairie Emily Ranjou, donc ceux qui le souhaitent pourront acheter des livres de l'autrice et les faire dédicacer.
Ilia Green, sur cette même journée du 6 décembre, va être très occupée puisqu'elle animera les deux ateliers. Et donc, il reste de la place pour l'atelier de l'après-midi, donc de 14h30 à 16h, qui s'intitule « La fabrique de personnages ». Donc, à partir de collage, découpage, coloriage, peinture, enfin différents moyens techniques, en fait, l'idée, c'est vraiment de proposer aux participants de rechercher, enfin, d'inventer un personnage. Et une fois ce parcours de création réalisé, en fait, à partir de ce personnage, qu'est-ce que raconte ce personnage ? Du coup, le personnage en lui-même peut induire l'histoire qu'on va pouvoir se raconter. Donc, c'est un peu tout le cheminement du travail de créateur. Et ça se veut un atelier tout public. Donc, c'est à partir de 7 ans. Et il n'y a pas de limite d'âge. Donc, on peut venir avec ses enfants, mais on peut venir aussi en tant qu'adulte tout seul si on a envie d'expérimenter un atelier de création graphique avec Ilia Green.
On peut préciser que pour l'atelier, tout comme le concert dessiné Baladine, là par contre il faut réserver.
C'est préférable, notamment l'atelier parce qu'il n'y a pas énormément de place. Et puis le concert, il reste de la place, mais il ne faut pas forcément attendre le dernier moment. Le spectacle est à 6€ en tarif unique et l'atelier 5€.
C'est notre clap de début de semaine. En fait, pas vraiment, puisqu'on n'allume pas la caméra, mais le projecteur de cinéma. Madame et Monsieur Cinéma de l'Agité, Nour et Léni, arrivent dans quelques instants avec leur chronique. Avec le froid dehors qui s'est enfin installé, quitte à rester enfermé, autant l'être au cinéma. Et alors, ce que j'aime bien quand la lumière s'éteint, ce sont les premiers mots des personnages. Parfois, ils ne sont pas dits, mais plutôt chantés.
Sais-tu, ma belle, que les amours les plus brillantes ternissent le sale soleil du jour, le jour les soumet au supplice. J'ai une idée inattaquable pour éviter l'insupportable avant la haine, avant les coups de sifflet ou de fouet, avant la peine et le dégoût. Brisons-la s'il te plaît.
Non, je t'embrasse et ça passe. Tu vois bien, on se débarrasse pas de moi comme ça. Tu croyais pouvoir t'en sortir en me quittant sur l'air du grand amour qui doit mourir. Mais vois-tu, je préfère les tempêtes de l'inéluctable à ta petite idée minable. Avant la haine, avant les coups de sifflet ou de fouet, avant la peine et le dégoût. Brisons la dis-tu.
Mais tu m'embrasses et ça passe. Je vois bien, on se débarrasse pas de toi comme ça. Je pourrais t'éviter le pire,
mais le meilleur est à venir.
Avant la haine, avant les coups de sifflet ou de fouet, avant la peine et le dégoût. Brisons-la s'il te plaît.
Non, je t'embrasse et ça passe. Tu vois bien,
avant la haine, avant les coups de sifflet ou de fouet, avant la peine et le dégoût.
Brisons la dis-tu.
Mais tu m'embrasses et ça passe. Je vois bien. On se débarrasse pas de toi comme ça.
On se débarrasse pas de moi comme ça.
Avant la haine d'Alex Baupin dans le film Dans Paris. Ils ne font pas tellement la pluie et le beau temps, mais on peut le dire, certains films ont cette capacité de nous donner du rose aux joues ou du chaud au cœur. Les Niénours nous en donnent un avant-goût. Bonjour à vous deux.
Bonjour Margot, merci. Alors moi du coup, dans un premier temps, je vais vous présenter le programme de la semaine prochaine. Donc on va commencer avec Frémont, un film de Babak Jalali qu'on a eu en avant-première la semaine dernière à l'avant-scène. C'est une sortie nationale, ça commence à partir de ce mercredi, il sera un petit peu dispatché sur tous les jours de la semaine. Ensuite on va avoir La Chimère de Alice Rohrwacher, qui est aussi une sortie nationale. En avant-première et en présence du réalisateur, on va avoir le film des Trois éléphants, portrait d'un festival associatif. Notre séance ciné-club de cette semaine, ce sera Mad God de Phil Tippetti. En ciné-débat, on va avoir Les petits mâles de Laurent Maitry. Ce sera mardi 12 décembre à 20h, ce sera aussi en présence du réalisateur. Ensuite, on va avoir Le petit blond de la Casbah, Little Girl Blue de Mona Achache, Perfect Days de Wim Wenders, Mars Express de Jérémy Perrin et Simple comme Sylvain de Mona Chokri. Et en séance jeune public, on va avoir Le tableau de Jean-François Ligioni et Opération Père Noël de la compagnie Atia et Monsieur Robinet.
Merci Nour. Et toi Léni, de quoi tu nous parles aujourd'hui?
Nour vous a dit que cette semaine on allait passer Mad God en séance ciné-club, du coup moi je vais vous parler un peu de ce film-là. C'est un film de Phil Tippetti. Et Mad God c'est quoi? C'est un film d'animation qui est sorti en 2021 et qui est réalisé en stop motion, donc en animation en volume. Et bah du coup le papa de Mad God c'est un monsieur qui s'appelle Phil Tippetti. Et Phil Tippetti, qui a aujourd'hui 72 ans, il me semble, et ben c'est un monsieur très reconnu pour son travail justement sur l'animation en volume, donc sur l'animation en stop motion. Et le CV du monsieur, il est plutôt rempli, puisqu'il a travaillé sur des films comme Jurassic Park, Star Wars, Starship Troopers ou encore Robocop. D'ailleurs, petit parallèle rapide, on organise un ciné-concert en janvier avec nos amis du 6x4 sur le film Robocop. Donc pour revenir sur Phil Tippetti, eh ben, il va inventer et animer pour Star Wars par exemple pas mal de créatures de la trilogie originale. Et c'est notamment à lui qu'on doit l'apparence de Jabba le Hutt, pour ceux qui connaîtraient un peu les personnages. Pour Jurassic Park, Spielberg choisira finalement d'utiliser l'image de synthèse pour ses dinos. Et ça pour Tippetti, ça va être un vrai choc parce que ça va marquer le passage à l'ordinateur et une obsolescence de l'animation en volume. Et le film qu'on a choisi de passer, donc Mad God, c'est un projet qui date de cette période pour Phil Tippetti. Donc c'est une idée qu'il a eue pendant le tournage de Robocop 2, donc en 1990. Sauf qu'avec le passage à l'image de synthèse dans les années 90, eh ben, Tippetti il va mettre de côté ce projet-là. Mais il le reprendra 20 ans plus tard, donc encouragé par son studio. Et encouragé par une campagne Kickstarter afin de financer ce projet. Et du coup, en 2021, eh ben, sort ce film, Mad God, qui est un film tordu, vraiment sordide. C'est une vraie cacophonie visuelle, mais c'est probablement un des films d'animation les plus impressionnants sortis ces dernières années. C'est très horrifique, mais c'est aussi fantastique. C'est un vrai foutoir. C'est le travail d'une vie entière. C'est la mise en image d'un sacrifice au service d'une technique d'animation utilisée trop rarement aujourd'hui.
Et alors, tu nous rappelles la date, vous allez le projeter?
On le passe, oui, cette semaine, samedi 9 décembre à 22h30.
Et toi, Nour, il y a un autre événement dont tu veux nous parler.
Dans deux semaines, ce sera la Nuit Ghibli, qui aura lieu le 15 décembre, du coup, au cinéma de l'avant-scène. Donc, on va passer 5 films du studio Ghibli, dont 4 films de Hayao Miyazaki et un film de Isao Takahata. Donc, on va passer Le Garçon et le Héron, qui est la dernière sortie de Hayao Miyazaki. Il est sorti en 2023, il y a eu beaucoup de bruit autour de cet événement. Et du coup, comme nous, on voulait pouvoir le repasser, on s'est dit que ce serait hyper intéressant de passer 4 autres films cultes de ce studio-là en même temps. Donc on va passer Princesse Mononoke, Nausicaa la Vallée du Vent, Ponyo sur la Falaise et Pompoko, en plus du Garçon et du Héron. Donc ce sont des animations, des films d'animation japonaises sur le thème de la nature, des films qui vont de 2000 à 2023, le plus vieux étant Princesse Mononoke en 2000. Et donc ce sont les mêmes réalisateurs que Le Voyage de Chihiro ou Le Tombeau des Lucioles, entre autres, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres. Mais nous, on a vraiment choisi ces 5 films-là pour leur rapport avec la nature. Et comme ça, ça suit vraiment le Garçon et le Héron sur cette idée-là de films de la nature et de Hayao Miyazaki. Donc, ce sera une nuit qui aura lieu le 15 décembre. Et ça commencera à 20h, donc par Le Garçon et le Héron. Ce sera suivi de Princesse Mononoke et de Nausicaa la Vallée du Vent qui se finira aux alentours de 3h du matin. Ça reprendra à 9h30 avec Ponyo sur la falaise et Pompoko. En termes de tarifs pour cette nuit-là, ce sera 20€ pour les 5 films, 10€ pour 2 films et 12€ pour les 3. Et à partir de 3 films, ce sera 4€ le film, d'où le 20€ pour les 5 films.
Merci Léni, merci Nour. Et donc à dans 2 semaines. Lucie, on est bien ici, mais on doit laisser l'antenne. Et d'ailleurs, on parlait voyage sonore et visuel tout à l'heure.
Eh bien, à 19h, Margot Solénoïde propose aussi une sorte de voyage. Pour ça, on écoutera des musiques un peu planantes qui nous sortent du quotidien.
Et c'est très bien pour ne pas commencer la semaine dans la routine. Et à 20h, je crois qu'on se replonge dans les 20 ans de Caroline.
Ces 20 ans, c'est comme si c'était hier, Margot. Et oui, c'est chouette parce qu'elle nous emmène avec elle dans sa discothèque.
La soirée se termine ensuite toute en acrobatie avec l'aléatoire.
À 21h, c'est du jazz désaxé, techno biscornu et rock rocambolesque.
On voyage dans le temps, on dépasse les frontières aujourd'hui sur l'autre radio. On se retrouve donc en forme demain à 12h15 pour une nouvelle émission de l'Agité du local. Échauffez-vous et puis bien sûr, faites-le bien.
Oh, c'est déjà la fin, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Et quand même, d'autres émissions qui sont bien aussi sur l'autre radio.